un match complètement folle ici au King Power.
Oh,
et Jamie Vardy entre dans la danse.
And it's Thierry Henry. And Henry is magnificent. And when you need a goal, you need Thierry Henry.
PL Zone.
Aguero.
Salim Bongali, Florent Moussy.
Salut à toutes et à tous, bienvenue dans PL Zone, le podcast, votre rendez-vous du lundi consacré à la première ligue, le plus beau des championnats au monde, c'est une évidence. La semaine dernière, nous avons consacré un podcast spécial à Arsène Wenger sur la période 96-2006. Sous-entendu, ses 10 premières années à la tête du club londonien cette semaine. Deuxième podcast pour la période suivante, entre 2006 et 2018. Bonjour Florent Moussy.
Salut à tous.
Avec également dans ce podcast Thomas Descamps d'Arsenal French Club sur Twitter. Bonjour Thomas.
Bonjour.
Après donc la période faste évoquée la semaine passée, passons à une période un peu plus délicate entre 2006 et 2018. PL Zone, le podcast, épisode 19, partie 2. Let's go. Désormais qui résonne dans l'antre de l'Emirates Stadium avant les matchs. La première fois, c'était il y a une dizaine de jours lors de la rencontre face à Leeds North London Forever de Louis Dunford. On a voulu démarrer par ce chant, cet hymne, car le stade a été souvent la raison évoquée pour argumenter autour des résultats sportifs moindres d'Arsène Wenger et donc d'Arsenal à partir de 2006, sous-entendu année du déménagement à Highbury direction Emirates. Juste avant, tiens, d'évoquer cela, d'évoquer ce stade, juste le bilan sur la période 2006-2018, Thomas, Flore, pour bien comprendre les choses. Sur cette période, donc, les classements d'Arsenal, ce sont 4e, 3e, 4e, 3e, 4e, 3e, 4e, 4e, 3e, 2e, 5e, 6e, 3 cups, 2 Community Shield, 2 finales de Coupe de la Ligue, 1 demi-finale de Champions. Pardon, Flora, mais quand j'évoque ce bilan, dit comme ça, c'est pas si catastrophique que ça quand même, non ?
Ben, ça dépend d'où on regarde et pourquoi. Enfin, c'est-à-dire que si on regarde par rapport à ce qu'était Arsenal avant, si, c'est catastrophique. Puisqu'il gagnait des titres de champion, il n'en gagne plus. Donc forcément, il y a un décalage. Maintenant, catastrophique, non, parce que la densité de la Première Ligue était telle à ce moment-là, elle l'est encore aujourd'hui, mais elle a commencé vraiment à se densifier à ce moment-là. Évidemment que la concurrence fait que c'est compliqué de se maintenir au plus haut niveau. Maintenant, il y a une certaine quand même régularité, notamment au niveau du top 4. Ils sont sortis que dans les dernières années, finalement, de ce top 4 d'Arsène Wenger. C'est ce qui a provoqué un peu sa chute aussi. Mais en soi, non, c'est pas catastrophique, mais c'est pas forcément digne du troisième club le plus titré d'Angleterre.
C'est vrai, Thomas, que comme le dit Flora, le classement est loin d'être risible, encore une fois, mais le côté titre, cette fameuse première place, c'est ça aussi qui a manqué au final, sur cette période.
Oui, c'est ça qui a manqué sur cette période. Et puis, c'est vrai que là, on parle d'une période qui est assez longue, hein, entre 2006 et 2018. C'est assez long quand même pour un club. Il y a vraiment deux périodes pour moi entre 2006 et 2013-2014 où là, vraiment, il n'y a rien du tout au niveau des coupes, etc. On ne gagne plus. Il y a deux finales qui sont loupées en League Cup. Et vraiment, il y a une deuxième période à partir de 2013-2014. Et puis, c'est la fin du remboursement du stade, où là, on retrouve des titres, on retrouve de la compétitivité. Il y a une deuxième place, notamment après en championnat avec le titre de Leicester, le fameux, où voilà, on retrouve une équipe compétitive, mais il y a vraiment deux phases dans cette période de 2006 à 2018.
Alors, le stade, désormais, on l'évoquait ou l'entre-évoquait il y a quelques instants. La raison principale souvent évoquée, c'est le déménagement à l'Emirates. On le rappelle, la somme globale, grosso modo, pour les travaux pour le nouveau stade, on parle grosso modo en euros de 450 millions d'euros. Et c'est une somme qui, certes, a fait changer de dimension Arsenal, mais c'est aussi une somme qui a forcément freiné Arsenal dans ses ambitions, notamment en termes de recrutement, Thomas.
Oui, énormément, parce que de toute façon, le discours, il est clair. Et puis Wenger, il a toujours été clair et direct avec ses joueurs, avec son équipe et avec les supporters. Dès la construction du stade, il évoque déjà très rapidement à Thierry Henry, à Patrick Vieira, à tous les cadres de l'équipe, des invincibles, que voilà, l'équipe ne sera plus comme avant, qu'il ne pourra plus payer les salaires qu'il paye aujourd'hui, qu'ils vont garder que des, voilà, recruter des jeunes joueurs, prendre des joueurs de l'académie, etc. Donc il est clair là-dessus, il évoque clairement qu'il va y avoir des années qui vont être compliquées au niveau sportif, ils doivent se limiter à 50% de masse salariale dans le budget. Et puis que voilà, ils pourront plus faire comme avant. Donc ça va enclencher un certain nombre de départs, ça va ouvrir la voie aux baby gainers. Hein, c'est vraiment là qui sont arrivés, les Wilshere, les Fabregas, etc. Les Clichy. Donc c'est vrai que ça enclenche quelque chose. C'est la fin des invincibles parce qu'il ne peut plus leur proposer la compétitivité pour gagner des titres. Il le dit clairement. Voilà, on va plus aller vers des titres là-dessus, mais on va maintenir un niveau de compétitivité qui nous permettra d'avoir la Champions League toutes ces années à cette période-là.
Juste, Flora, avant de vous passer la main, on a fait un petit check des chiffres et sous-entendu des dépenses faites sur la fameuse période qu'on évoque, donc dans ce podcast 2006-2018. Et on voit que, notamment au tout début de cette fameuse période, avec donc le remboursement de l'Emirates, c'est très compliqué de dépenser. La première saison, 15 millions d'euros dépensés par Arsenal. Quand on dit qu'un club de première ligue dépense 15 millions, aujourd'hui, ça paraît aberrant.
Oui, c'est pas un joueur, normalement.
C'est ça, c'est Thomas Rosicky, à l'époque, qui est arrivé pour cette somme-là globalement. La saison suivante, c'est le double pour notamment, parmi ces 31 millions d'euros dépensés, Eduardo ou encore Bakary Sagna. Une quarantaine de millions l'année suivante avec des joueurs, pour le coup, Arshavin, Nasri, Michael Silvestre. On se dit d'ailleurs, même avec le recul, que c'était pas idiot en final, que cette somme avait été plutôt bien dépensée. La saison suivante, et c'est peut-être là que commence le mal au final à Arsenal, parce que vous dépensez 12 millions pour Vermaelen. À la limite, pourquoi pas? Sauf que vous laissez partir un Adebayor ou un Kolo Touré, qui étaient des joueurs cadres pour le coup de l'équipe d'Arsenal. Deux saisons plus tard, il y a le fameux panic buy à Arsenal où vous recrutez dans les toutes dernières heures du mercato du mois d'août un Oxlade, Chamberlain, un Arteta, Gervinho, Mertesacker, Park Chu-yung qui devait être à Lille et qui au final a été exfiltré pour arriver à Arsenal. Alors que dans le même temps, Fabregas, Nasri, Clichy, Eboué quittent Arsenal. C'est aussi ce genre de choses qui a fait mal à Arsenal, Flora.
Mais c'est pas qu'une question, c'est là qu'on le voit et c'est très bien à montrer dans les noms et dans les chiffres que tu avances, c'est que c'est pas qu'une question d'argent. Alors évidemment, on en avait parlé la semaine dernière, mais le projet mis en place par Arsenal avec le remboursement du stade et le refus de l'endettement, il est très louable et c'est à saluer parce que dans le foot moderne aujourd'hui, ça n'existe quasiment pas. Donc évidemment qu'il y avait des conséquences financières. Maintenant, l'argent, il y en avait quand même un peu. Et ça, pas, il n'y a pas que des erreurs de recrutement dans ce que tu nous dis, Salim. Mais effectivement, ce qui est intéressant, c'est de regarder les joueurs qui sont partis, en fait. Parce que pourquoi aussi les joueurs partent à un moment? Mais parce que le club n'est pas capable de leur promettre des titres qu'eux, ils cherchent, finalement. Nasri, quand il va signer à City, c'est pourquoi? C'est pour être champion, et il va y arriver. Plus tard, Van Persie, pourquoi il signe à United? Parce qu'il veut être champion, et il va y arriver. Et c'est ça qui est malheureux. Et c'est un peu un cercle vicieux, finalement, parce qu'ils n'ont pas l'argent nécessaire pour recruter, pour être compétitifs. Et du coup, ils perdent des joueurs qui leur permettrait d'être encore plus compétitif et donc de remporter des titres et donc peut-être d'attirer encore plus de joueurs. Donc c'est un cercle vicieux comme ça, effectivement, dès qu'il y a un rouage qui n'est plus vraiment là, on ne peut plus attirer les joueurs nécessaires et forcément après c'est compliqué.
Et en plus, en deux saisons, je disais notamment lors de la saison 2011-2012, Fabregas, Nasri, Clichy et Boué, la saison d'après, Van Persie, Song.
Bah oui.
Donc en gros, en deux années, enfin en deux mercato estivaux, Thomas, vous perdez des vrais joueurs cadres pour le coup.
Complètement, et puis il y a aussi une sorte de frustration, parce que pour ces joueurs-là qui sont arrivés juste après la période des invincibles, enfin après 2006, il y a une frustration parce qu'on rentre dans un club qui sort de cette saison, qui sort d'une finale de Champions League, qui sort d'une énorme période pour enchaîner les années où on ne gagne absolument rien, donc il y a une forme de frustration, on se dit je suis arrivé dans un club comme ça, je suis venu là pour gagner des titres et au final on n'est pas compétitif, on n'est pas capable de conserver des grands joueurs qui étaient nos cadres et au final on ne recrute, on voit que Samir Nasri ou Fabregas à l'époque c'était les, parmi les joueurs les plus
bien
expérimentés
sûr.
Quoi, vraiment, donc il y a cette forme de frustration là et puis cette période de départ elle va aussi concorder avec une période de la fin du stade et du coup une grosse période d'achat à partir de 2013-2014. On va avoir les achats Özil, on va avoir les Sanchez, Alexis Sanchez, où voilà, on va commencer à rebondir un petit peu, mais cette phase-là, elle est destructrice pour le club.
C'est vrai qu'à partir de 2013, il y a 50 millions déboursés, dont 47 sur Özil. La saison suivante, près de 120 millions d'euros dépensés, dont une grosse somme sur Alexis. Après, 2017-2018, 156 millions avec, sur la même saison, Lacazette, Aubame, Kitarian. Après, il y a aussi des mauvais choix, Henrik Kitarian, alors il est arrivé de United, donc c'est peut-être pour ça qu'il y avait une somme importante, mais c'est vrai que pour le
le coup. Il n'y a rien à United, en fait. Donc,
et pour le coup, il n'a pas forcément marqué l'histoire d'Arsenal également. Et puis, ces joueurs-là, quand on évoquait un peu plus tôt les Fabregas, ou Nasri, plutôt Nasri, Clichy, Van Persie, ça va aussi, Flora, dans les clubs adversaires qui on renforce ses adversaires, pour le coup.
Mais oui, et c'est là où la stratégie, elle n'est pas bonne. Ils font ce qu'ils peuvent aussi. C'est-à-dire qu'à un moment, quand les joueurs veulent partir, ils veulent partir. C'est compliqué de les retenir. Et on comprend que quand on évolue dans un championnat aussi compétitif que la PL, finalement, on a peut-être envie juste d'aller dans un club de PL qui est plus compétitif. Et c'est ce qu'ils ont fait tous un par un. Et finalement, on ne peut même pas leur jeter la pierre. Alors après, Van Persie, il s'est fait assassiner parce qu'il a signé à United derrière. Mais il gagne au final. Première année, il gagne et il cartonne en fait avec sa saison avec United. Donc je conçois qu'en tant que supporter, ce puisse être compliqué parce qu'on a ce côté amour du maillot. On a envie que les joueurs partagent ça. Mais c'est normal qu'à un moment, ils aient envie d'être compétitifs et qu'ils aient envie de gagner des titres. Van Persie, il est resté très longtemps quand même avant de partir, avant de se dire je vais bientôt arrêter ma carrière. Je veux partir, quoi. Je veux juste gagner. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, Thomas, mais c'est vrai que c'est compliqué de leur en vouloir, quoi.
Complètement. Et puis surtout, l'année juste avant qu'il parte, Van Persie, c'est lui qui nous arrache la quatrième place qualificative en Ligue des Champions.
Surtout après tout ce qu'il a fait,
quoi. Il fait une saison incroyable. C'est vrai que c'est très frustrant parce qu'il part vraiment chez l'opposant direct en dehors de Tottenham. Mais pour United, c'est dur. United gagne le titre juste après avec lui. Donc c'est très dur, mais en même temps c'est lucide en fait, c'est lucide même en tant que fan d'Arsenal. On est obligé de comprendre les choix de ces top joueurs. On se dit que ces top joueurs, on ne peut plus les conserver, on peut les créer, parce qu'on a mis en orbite un certain nombre de joueurs qui sont devenus des grandes stars par la suite, Fabregas, Van Persie et d'autres, mais on ne peut plus les garder. À partir du moment où on les monte, on les élève, on ne peut plus leur apporter ce qu'ils attendent d'un grand club que peut rapporter d'autres
ça,
clubs.
Ça, aussi. Thomas, en tant que supporter, et ça doit être extrêmement frustrant aussi quand même pour vous de se dire on a des bons joueurs, mais on n'est juste pas capable en fait de les retenir. On n'a pas les atouts nécessaires en fait pour les retenir. J'imagine que ça, en tant que supporter, ça doit être super dur de se dire que nos joueurs ils préfèrent aller dans un autre grand club de PL, de se dire on n'est plus vraiment en fait un grand club de PL capable de retenir des joueurs importants, quoi.
C'est d'autant plus frustrant qu'on a l'impression que, on peut le comprendre comme ça, on a cette grande période d'Arsenal qu'on a évoquée lors du premier podcast. On a une période où presque on s'endort parce que on est un peu en dessous des radars parce qu'on peut pas rivaliser, et on se réveille un petit peu en 2013-2014 où en effet on met le paquet. Sauf que 2013-2014, il y a d'autres clubs qui se sont réveillés. Il y a Chelsea qui est passé sous Abramovich, il y a Manchester City qui a été racheté par les Émirats. Il y a de nouveaux concurrents qui ont les moyens financiers hors du commun, alors que nous, on était plutôt un club qui faisait attention à ses sous. Donc, on a vraiment d'autres pouvoirs en place. La troisième et quatrième place, ça correspond à ces deux nouveaux, avec Chelsea qui était déjà bon avant, mais là, avec l'ère Mourinho, etc. Là, on se réveille, on se dit on n'est plus dans la même première ligue. On est dans une première ligue où on a des clubs qui sont des multinationales, des énormes moyens, ça s'endette. On surpaye aussi tous les joueurs. Il y a aussi une question derrière tout ça qu'on n'a pas évoqué, mais qui me semble quand même important. Les droits TV entre 96 et 2018, l'année où il part, c'était x8 pour les clubs. C'est énorme et ça va impacter énormément la gestion des clubs, la gestion de l'attrait des salaires, de l'attrait des joueurs. Quand on peut se battre quand on joue à quelques pourcents de salaire, mais quand on double un salaire, quand on multiplie par des sommes importantes, on ne peut plus se battre.
Mais vous avez raison d'en parler de ces droits télé. Comme vous avez évoqué juste avant, et on va s'attarder sur ça, sur la concurrence, parce qu'effectivement, Arsenal, il y a quelques années, et notamment dans le premier podcast que l'on a évoqué, le grand concurrent d'Arsenal, c'était Manchester United, avec un ton en dessous Liverpool qui pouvait les titiller et les embêter, notamment en coupe. Le problème, c'est qu'à partir de 2005, au final 2004 d'ailleurs même, Chelsea va arriver sur ce territoire-là avec José Mourinho, et après il y aura d'autres. Mais c'est vrai que Flora, à partir de Chelsea, Arsenal va clairement reculer.
Ah ben en fait, ils vont sortir de cette lutte pour le titre. Donc, hormis la saison qu'évoquait Thomas tout à l'heure, avec qui pour moi...
C'est terrible d'ailleurs, parce que Chelsea, Liverpool, City sont loin, et au final, ils sont dépassés par Leicester quand même.
Exactement, cette saison-là, moi je trouve que c'est il termine deuxième. Ok, ouais. On se dit sur le papier, c'est la meilleure saison de ces dernières années, mais moi, je trouve que c'est la pire. Ouais. C'est-à-dire que c'était l'année où jamais, où Arsenal pouvait retrouver ce titre de champion, et ils n'ont pas réussi. Et je me dis, mais en tant que supporter, ça devait être mais horrible. Parce qu'on se dit, alors, Leicester, c'était incroyable. Je pense que cette année-là, ils ne pouvaient rien leur arriver, c'est pas possible. Mais c'était quand même l'année où jamais, voilà, de profiter de ça. Mais pour en revenir à la concurrence, c'est sûr que l'arrivée de José Mourinho, donc d'Abramovic et de José Mourinho à Chelsea, fait extrêmement mal à Arsenal parce que c'est un nouveau pion qui rentre dans ce jeu d'échecs finalement avec Manchester United. Le duel, c'est plus Arsenal United à ce moment-là, c'est Chelsea United en fait qui se crée et Arsenal est totalement extérieur à ça en fait. Ils vont venir quelquefois évidemment parce qu'ils ont toujours fait des perfs que ce soit contre Arsenal ou contre Chelsea dans les matchs contre United pardon, à confrontation directe, mais sur le long terme en tout cas, ils tiennent plus et l'arrivée de City après ça écrase tout encore pire. Et après, ça tourne beaucoup quand même en première ligue, mais c'est vrai que Arsenal à ce moment-là est assez décroché. Et finalement, leur objectif de toute façon chaque saison, ce ne sera pas de lutter pour le titre, ce sera d'être dans le top 4 et d'assurer cette place en Champions.
Petite digression, quand vous évoquez cette saison 2015-2016, donc, où Leicester est champion d'Angleterre, je me souviens, je suis à l'Emirates le jour du Arsenal-Leicester. Arsenal gagne 2-1 ce jour-là des toutes dernières secondes. Et on se dit, ah, finalement, Arsenal va réussir à faire du mal à Leicester et Arsenal va peut-être réussir à choper ce titre. Et au final, ça se finit mal avec cette deuxième place. Mais c'est vrai que Thomas, City par la suite et d'autres au final qui vont régulièrement venir embêter et prendre des points régulièrement. C'est vrai qu'Arsenal semble tellement déconnecté sur les dernières saisons au final.
Oui, et je pense même que cette saison 2016, elle a marqué un tournant, je pense, dans l'esprit des fans, parce qu'ils vont se dire aussi que peut-être que Wenger n'est plus l'homme de la situation, et c'est un moment un peu grave pour tous les fans, parce que on se dit que depuis 2013, ça y est, on remet de l'argent, vous l'avez évoqué tout à l'heure, dans le mercato, on a trop de concurrence, du coup, on a beaucoup de panic buy, justement, avec des joueurs qu'on surpaye et qui sont plutôt des joueurs moyens, qui ne sont pas des top joueurs, et d'ailleurs, qui vont souvent nous prouver qu'on a raison à ce niveau-là. Mais surtout 2016, c'est de dire, bah là, on avait toutes les cartes pour y aller, on avait l'équipe, on avait les adversaires qui ne faisaient pas une grande saison, etc. Et au final, on n'arrive quand même pas à conclure, alors que presque c'était servi sur un plateau. Et à ce moment-là, à partir de 2016-2017, c'est les premiers mouvements qui vont commencer à parler du départ de Wenger, que c'est plus possible. Si je dis pas de bêtises, c'est aussi l'année où Wenger fait un burn-out.
Absolument.
Parce que le club fait le club grandit aussi. Hein. Il l'évoquait dans une interview avec Ian Wright, avec Sol Campbell et Gallas, où il évoque le fait que quand il a démarré, il gérait l'équipe 1 avec 3 professionnels. Quand il finit, il y a 20 agents qui gèrent son équipe. C'est un club qui a pris une dimension monstrueuse, qu'il n'arrive plus à gérer comme il gérait auparavant son club. Il est dépassé à tous les niveaux. Et c'est un peu la fin d'une ère, mais c'est aussi la fin. Je pense d'un type de manager, d'un type d'entraîneur. Mourinho en parlait quand il est parti, Wenger, il dit que c'est le dernier de son espèce. Et je trouve que ça recouvre bien le fait que Wenger, il a fait partie d'une époque et que ces années-là, elles marquent le fait que lui n'est plus adapté aussi. Il n'arrive plus à s'adapter à l'époque qui est en cours. Mais lui, voilà, il n'arrive plus, il ne correspond plus à l'époque qui arrive.
On écoutera José Mourinho dans quelques instants évoquer Arsène Wenger et on évoquera une petite page héritage justement sur le cas Arsène Wenger, que ce soit à Arsenal ou même dans l'histoire d'ailleurs de ce championnat d'Angleterre. Mais vous l'avez abordé aussi, les critiques. Parce qu'au final, il y a presque une phrase, un hashtag, puisque nous sommes à l'ère des réseaux sociaux, contrairement peut-être au premier podcast qu'on a évoqué la semaine passée, où ce n'était pas encore l'ère des réseaux sociaux, le fameux « Wenger out ». Tant de critiques envers lui. Et tiens, pour en parler de ces critiques, alors il a été Arsenal, et même par la suite, il a toujours été un observateur des Gunners, Johan Duroux, qui est en notre compagnie. Bonjour Johan.
Bonjour,
salut Joe.
Grand plaisir de vous accueillir dans PL Zone, le podcast. Elle va très bien. Elle est prête d'ailleurs pour dimanche prochain, un grand multizone qui s'annonce sur RMC Sport et une grande et belle journée, un beau dimanche évidemment, qui verra West Ham se qualifier pour l'Europa League. Mais ça, c'est pas l'heure de ce podcast. Plus sérieusement, Johan, votre regard, vous en tant qu'ancien joueur d'Arsène Wenger évidemment, et aussi par la suite, lorsque vous avez quitté Arsenal, vous avez évidemment continué d'observer ce club londonien. Les critiques envers Arsène Wenger, les critiques dures parfois, le fameux Wenger out, est-ce qu'avec le recul, vous les comprenez, ces critiques?
En fait, c'est toujours compliqué parce que bon, moi, j'ai corps et âme, c'est Arsenal, je suis arrivé là-bas à 16 ans. Donc, c'est toujours compliqué de voir que quand quelqu'un bâtissait quelque chose depuis zéro et le mettre à un certain niveau, c'est pour moi toujours incompréhensible d'avoir la critique. Mais après, ce que je pouvais comprendre, c'était que les autres clubs progressaient. les autres clubs avançaient, tu avais Chelsea qui revenait, tu avais Manchester City qui a investi beaucoup, et tous les autres clubs se rapprochaient. Donc en fait, et comme on l'a souvent dit en plateau nous-mêmes, c'est que les supporters sont très versatiles, et à un moment donné, l'histoire ne compte plus, mais par contre, le présent. Et c'est vrai qu'on gagnait plus de titres, Arsenal se battait plus, c'était plus compliqué d'avoir la quatrième place, il y avait moins de régularité dans les résultats. Donc, on peut comprendre ces critiques, mais je trouve toujours difficile et tellement dur d'avoir une telle un manque d'humilité, en fait, un manque de reconnaissance sur le fait que cette personne-là a pris un club de zéro et l'a bâti en tant que monument du football, quand même, au niveau finance et au niveau de tout ce que ça implique. Mais c'est vrai que le supporter, lui, bah, lui, il s'en fout de tout ça. Lui, c'est les titres, c'est les résultats, c'est de rivaliser et de devant Tottenham, de rivaliser avec City, et ce que ne faisait plus Arsenal pendant un petit moment et encore aujourd'hui.
Johan, juste, vous l'avez donc parfaitement connu, Arsène Wenger. À l'époque, les réseaux sociaux n'étaient pas aussi forts et aussi présents qu'aujourd'hui. C'était les journaux, donc la presse écrite. Est-ce que Arsène Wenger était attentif à ça, aux critiques de la presse écrite, ou il arrivait à mettre une certaine distance?
Alors, je pense qu'il y a toujours l'individu, l'homme lui-même, qui va sûrement être atteint. Et après, il y a le visage que tu vas avoir devant ton équipe. Donc, c'est vrai qu'il n'a jamais laissé paraître le fait d'être peut-être déstabilisé par des critiques. Peut-être une en référence que j'ai, mais ça, c'est un truc personnel. Mais sinon, il a toujours eu ce calme, cette sérénité de savoir que ce que sa méthode ou ce qu'il avait était quelque chose qui marchait. Mais après, ce qu'il faut dire aussi, c'est que des gens comme Arsène Wenger qui sont dans le foot depuis des années et qui ont fait ce qu'ils ont fait, ils ont peut-être tendance aussi un peu de peine à se renouveler. Tu sais, parce qu'à un moment, il y a des Pep Guardiola ou d'autres qui arrivent avec des nouvelles méthodes. Et la méthode Wenger marchait parce que lui, c'était plus la pièce maîtresse d'un club de foot parce qu'il avait vraiment bâti de A à Z. Tu sais, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ce genre de critique, pour toi, ça... Parce que tu es au-dessus de ça, tu es au-dessus de l'institution, tu es au-dessus de tout ce qui peut être comparé à un entraîneur. Wenger n'était pas un entraîneur. Wenger, c'était Monsieur Arsenal, en fait, tu vois. Donc, qu'on puisse dire oui, mais si et ça, ben lui, en fait, non, ça marche. On est dans le top 4, on joue à la Champions League. Peut-être qu'on gagne moins de titres que les autres aujourd'hui parce qu'on n'investit pas de la même manière, mais Arsenal est stable.
Thomas Descamps d'Arsenal French Club, quand vous entendez les propos de Johan, c'est vrai que Arsène Wenger, oui, il a tant apporté et on a parfois, malheureusement, quand on est supporter d'un club, peu importe qui nous sommes et quel club nous soutenons, on oublie parfois le passé et on ne pense qu'au présent. Et c'est aussi ça qui fait que Arsène Wenger a été très critiqué sur la fin aussi, parce qu'on a oublié ce qu'il a fait par le passé.
Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai que c'est... On a oublié ce qu'il a fait. Alors, je ne sais pas, mais c'est vrai que la phrase qui ressortait souvent dans les stades, je me souviens de l'affiche qui sortait souvent, c'était Arsène, thanks for the memories, but it's time to go. C'est, voilà, merci pour les souvenirs, mais maintenant, ce n'est plus possible. Il y a cette période, on parlait de 2006 ou 2013, où il n'y a plus rien. C'est compliqué. Je pense qu'il a profité quand même de son statut, du fait qu'il a réussi à faire tout ça pendant des années pour tenir, malgré le fait qu'il n'avait plus les résultats alors que les attentes étaient très grandes. Mais c'est vrai que c'est compliqué d'arriver à demander à quelqu'un, en tout cas qu'Arsène Wenger, qui est toujours en place, n'arrive plus à retrouver les résultats d'avant. Il y a une frustration qui a été bien marquée par les joueurs, mais qui sera marquée de plus en plus par les supporters, qui sera marquée par les nouveaux propriétaires d'Arsenal, parce qu'Arsenal change de propriétaire pendant la période Wenger. Donc il y a de nouvelles pressions, il y a une attente de tout de suite maintenant, que voilà, ce n'est plus possible dans l'époque actuelle d'arriver à gérer à la fois le côté j'ai fait tout ça, mais je n'arrive plus aujourd'hui à vous apporter ce qu'on attend de ce club-là, en tout cas ce qu'on attend de son héritage, finalement.
Mais après, c'est ça qui est frustrant, et peut-être que Joe, tu pourras me dire, mais moi, en fait, on a tendance à faire un peu le parallèle avec Ferguson, qui a eu peut-être la lucidité de partir en étant au plus haut niveau. C'est-à-dire que je pense qu'il savait très bien que s'il restait encore quelques années après, il n'arriverait plus à maintenir United au niveau où il l'avait emmené. Et je me pose cette question, est-ce que Wenger n'aurait pas dû peut-être de lui-même à un moment donné en fait s'arrêter, justement avec ce que tu disais Thomas, en voyant qu'il n'avait plus les clés nécessaires et qu'il n'était plus capable de que ce soit lui ou pour le contexte ou pour les propriétaires ou n'importe quoi, mais qu'il n'était plus capable d'atteindre le niveau qui s'était fixé au départ. Je ne sais pas, Joe, si tu en avais parlé ou pas avec lui, mais est-ce que tu ne penses pas qu'il aurait peut-être dû s'arrêter de lui-même à un moment plutôt que de terminer comme ça à Arsenal, où je trouve ça triste finalement que ça se termine comme ça?
Bah en fait, Flora, je suis à 100% d'accord avec toi, mais de nouveau, de demander à quelqu'un qui fait ça toute sa vie, qui a bien sûr aussi eu beaucoup de succès, de prendre du recul et de se dire est-ce que c'est le temps d'arrêter. Je pense qu'en fait, au final, c'est aussi une question que le board aurait dû se poser, et peut-être prendre une décision, parce qu'il était tellement, en fait installé, et presque comme l'a dit avant, j'ai oublié son prénom, excusez-moi.
Thomas,
Thomas a expliqué que quand t'es installé et que t'as une aise, ben en fait, t'es pas forcément forcé de bouger. Et je pense que Wenger avait ce sentiment qu'il avait fait tellement pour Arsenal qu'à un moment donné, c'est lui qui avait décidé quand il allait arrêter. Ouais. Mais par contre, où je te rejoins, Flora, c'est qu'en réalité, t'aurais pu partir à la tête haute. T'aurais pu aussi te dire que ben, on arrive au bout. T'aurais pu aussi te dire que les choses se renouvellent. Le football a changé depuis que Wenger a pris Arsenal. Aujourd'hui, c'est un autre football. Et même la transition de nouveaux coachs qui font du contre-pressing, qui sont beaucoup plus tactiques que Wenger ne l'a jamais été. Mais par contre, avec ce qu'il a fait et quand il a pris l'équipe d'Arsenal, c'est incroyable. Mais après, c'est vrai qu'il y a ce recul où on doit se dire, à un moment donné, bah ouais, j'ai amené l'équipe ou le club le plus loin possible.
Dans les 6-7 dernières minutes de ce podcast consacré donc à Arsène Wenger, on rappelle partie 2 consacrée à Arsène Wenger. La partie 1, c'était la semaine passée, à retrouver sur les plateformes d'écoute qui concernaient les 10 premières années d'Arsène Wenger à la tête des Gunners. Il y a aussi cette notion donc d'héritage. Il est resté 22 ans à la tête de ce club. Il a eu tant de titres, le stade, le centre d'entraînement, la philosophie de jeu, bref, une transmission de passion. Johan, on en parlait en off, hein, déjà, vous, forcément, de votre carrière à Arsenal, de votre relation avec Arsène Wenger. Et vous me disiez, notamment, la manière dont il transmettait la parole, au final, cette connaissance du jeu, notamment à certains qui sont devenus entraîneurs. On pense à Patrick Vieira, Thierry Henry s'est testé, Freddy Ljungberg, peut-être d'autres. Cette transmission, c'est une parole à part, peut-être.
Oui, moi, je pense que tu as... ce côté humain qui était très, très, très spécial et que je pense que chaque joueur a apprécié chez Arsène, c'était qu'on pouvait discuter avec lui, mais surtout, il nous a tous pris très, très jeunes. C'est-à-dire qu'au final, tu apprends en tant que jeune joueur, bien sûr, sur le terrain, mais tu as aussi un mentor qui se comporte d'une certaine manière avec les jeunes joueurs, qui a une attitude, des demandes aussi, qui fait que du moment où tu grandis et tu comprends la fibre football un peu plus. Par exemple, Patrick, il a pris très très jeune. Thierry aussi. Arteta est venu un peu plus tard. Mais c'est des gens qui avaient la philosophie et surtout la vision que Arsène pouvait déjà nous donner. C'est-à-dire qu'il avait ce vraiment ce ressenti, cette passion foot. Tu pouvais parler de foot avec lui tout le temps. Tu vois, c'était un dur qu'il allait regarder un match du Japon, il allait t'en parler, il allait regarder avec Boro, son assistant. C'était vraiment foot tout le temps. Donc en fait, tu transmets une passion, tu transmets une culture, tu transmets une philosophie, tu transmets surtout une vision. Et ce que j'adore avec ça, c'est que Wenger n'a jamais gardé ça pour lui, mais il nous a donné accès à ça. Tu sais, le fait de connaître, pour moi, c'est un truc qui est intéressant de pouvoir témoigner. Mais quand tu as accès, en fait, à la vision d'un des plus grands coachs de l'histoire du foot, tu vois, au niveau européen et même mondial, c'est quand même exceptionnel. Et je pense que ces joueurs-là ont ressenti cet amour et cette bienveillance d'Arsène Wenger.
Quand vous l'évoquez, le fait de vouloir partager l'information, de pouvoir en faire profiter un maximum, la semaine dernière, on évoquait notamment les propos de Tony Adams qui, lorsqu'il a vu pour la première fois Arsène Wenger, se disait « Mais c'est qui cet instituteur, ce professeur de français ?» Oui, il avait cette notion-là presque, Johan. Au final, c'était une sorte d'instituteur, Arsène Wenger, à vouloir apprendre les choses aux autres.
Oui, mais après, ça, c'est encore plus tôt. C'est-à-dire que dès qu'il arrive à Arsenal, c'est un peu qu'il faut carrément, en plus... changer la culture, parce que la culture était totalement différente. Et Tony Adams, à Réparlour, qui était vraiment à l'anglaise, qui buvait des bières ou qui buvait des chocolats dans le bus, alors que lui, il pouvait pas forcément accepter ça par rapport à la culture du sport et qu'est-ce qu'on demandait au corps. Donc tout ça, il a dû justement être en tant qu'instituteur. Mais nous, quand on arrive, c'est encore une chose, parce qu'on est tous jeunes. La plupart, on est des jeunes, donc ça veut dire qu'il doit nous guider, il doit nous donner confiance. On doit faire des erreurs, mais il doit toujours nous mettre en haut. Donc en fait, c'est vraiment un truc pédagogique en fait qu'il a eu. Il a eu bien sûr ce côté d'instituteur avec des plus vieux. Et nous, il a dû changer encore, se renouveler pour être quelqu'un qui était justement notre guide psychologique, notre guide sur le terrain, notre, un peu comme un papa en fait.
Thomas, dans 15, 20, 25, 30 ans, votre amour d'Arsenal sera donc toujours là, on l'aura compris. Comment est-ce que vous réussirez à expliquer dans 25, 30 ans aux plus jeunes qu'Arsène Wenger, c'était l'un des plus grands? Question piège, je l'accorde.
C'est une question piège. Alors moi, je dirais que, en tout cas, moi, j'ai toujours associé Arsène Wenger, pour moi, à l'un des plus grands romantiques du football. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui associait une vision très noble du foot, quelque chose qui devait produire des émotions, quelque chose qui devait être créatif, qui devait être offensif, qui devait laisser la liberté aux joueurs, et je trouve qu'il s'est beaucoup concentré là-dessus, de leur laisser la liberté de faire des choix dans un match. Il le redit souvent, c'est quelqu'un qui reconcentre le foot sur le terrain, les joueurs. C'est eux qui ont la responsabilité des décisions qu'ils prennent, et en tant qu'entraîneur, on essaie de les amener vers le plus beau jeu possible pour les supporters. Et je trouve qu'il a toujours été fidèle à ses convictions jusqu'à mourir avec elle, hein, finalement. Et je trouve, c'est aussi pour ça que je trouve ça romantique. Sa fidélité, sa loyauté, il a refusé le Real de Madrid, l'équipe de France, la Juventus, dans les périodes où Arsenal ne gagnait plus rien, où il aurait vraiment pu quitter le navire bien souvent. Il ne l'a jamais fait, il a toujours été fidèle, et c'est pour ça aussi tout à l'heure qu'on disait qu'il est aussi attaché à cette image d'Arsenal. Mais pour moi, voilà, c'est vraiment le romantisme du football, et c'est peut-être, en tout cas, moi, ce que je trouve, c'est peut-être pas objectif, mais c'est quelqu'un qui se rapproche de la pureté du football au sens où c'est la joie de jouer, la joie d'être créatif, d'être offensif et de procurer des émotions, de proposer un beau jeu. Contrairement à ce que faisait un José Mourinho, par exemple, à l'époque, il gagnait plein de titres, mais voilà, il ne proposait pas le jeu que proposait Arsenal, qu'on appelait le petit Barcelone à un moment donné, parce que c'était magnifique à voir jouer.
Ce petit Barcelone, Flora, quand on voit Mikel Arteta, on le rappelle, ancien adjoint de Pep Guardiola, ancien joueur d'Arsène Wenger, est-ce que l'héritage d'Arsène Wenger, il ne passe pas par Mikel Arteta même, en fait ?
Quelque part, oui. Après, c'est vrai que ce que dit, on parle d'héritage, ce que dit Thomas est intéressant. C'est vrai qu'il a quand même amené un jeu différent à la Première Ligue. Il n'y a pas que lui, mais il a participé à ce que la Première Ligue soit aussi ce qu'elle soit aujourd'hui en termes de jeu, que ce soit moins rébarbatif avec des longs ballons, avec tout ça qui était le kick and rush. Voilà, il a aussi participé à ça. Maintenant, Mikel Arteta, bien sûr que lui, il s'est forgé avec Arsène Wenger, avec Pep Guardiola, qui ont des philosophies proches en termes de football offensif, etc. Mais je pense qu'il a quand même sa personnalité aussi à lui, Mikel Arteta. Il y a un côté peut-être moins... alors, c'est pas péjoratif, mais moins humain, moins peut-être proche de ses joueurs. Ou voilà, on le sent un peu plus froid. Je le connais pas du tout. Hein, mm-hmm. Je sais pas non plus. C'est vraiment une simple impression. Mais je le mets plus proche de Guardiola que de Wenger, peut-être, aujourd'hui, Arteta, quand même.
On a évoqué dans ce podcast la rivalité, notamment, qu'il avait avec José Mourinho, lorsque José Mourinho était notamment l'entraîneur de Chelsea. Écoutez en longueur José Mourinho être dithyrambique sur Arsène Wenger il y a quelques années.
Wenger is the manager of the Invincibles.
Wenger, c'est le coach des Invincibles. Il a entraîné l'équipe qui a gagné la Première Ligue sans perdre un seul match. Ce genre de choses reste pour toujours.
I think in football now is...
Dans le football d'aujourd'hui, c'est impossible pour un entraîneur de rester 15, 20 ou 25 ans dans un club. Je ne crois pas qu'on reverra un entraîneur même rester 10 ans. Aujourd'hui, les coachs ne restent pas longtemps dans les clubs. On se rappelle facilement d'Arsène, car c'est le dernier de son espèce.
Voilà comment José Mourinho, peut-être dans 15, 20 ans, présentera Arsène Wenger pour le coup. C'est le dernier de son espèce. Et oui, en quelque sorte, rester aussi longtemps sur un banc, ça marque forcément. Tiens, dernière chose, Johan, votre regard aussi. Alors, c'est peut-être pas évident et on vous met un peu en porte-à-faux, j'en suis navré. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit Arsène Wenger avoir un rôle auprès de la FIFA, notamment la Fédération internationale. On l'a vu récemment, c'était il y a quelques mois en tout cas, se battre bec et ongles pour cette Coupe du Monde tous les deux ans qui finalement a été retoquée officiellement par la FIFA. C'est surtout les autres fédérations qui n'étaient pas forcément pour. Alors qu'on se souvient, lorsqu'il était joueur, lorsqu'il y avait une parenthèse internationale, il était très en colère de voir ses joueurs partir sur tous les continents pour jouer les différentes sélections. C'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a plus vraiment le même Arsène Wenger. On a l'impression que le Arsène Wenger qu'on connaissait n'est plus, j'ai vraiment envie de dire.
Ouais, c'est délicat parce qu'en réalité... Je pense que autant le supporter peut être volatile, autant l'être humain peut l'être aussi. C'est-à-dire que fonctions qui sont propres à un club, on respecte surtout le devoir et le désir de nos joueurs, parce que bien sûr la priorité c'est le championnat, les résultats qui nous importent. En vrai, on est le coach d'Arsenal, donc on aimerait avoir les joueurs dans la meilleure situation. Mais on a bien vu aussi que d'autres personnes qui changeaient de club pouvaient changer de philosophie ou changer de valeur même des fois. Donc j'ai pas envie de dire de valeur pour lui, parce qu'au fond moi je l'ai côtoyé en tant que coach. Donc c'est ce que j'ai envie de me souvenir de lui, de ce qui nous instaurait et ce qu'il nous donnait. Maintenant, c'est vrai que par rapport à ce qu'il donnait à l'époque ou ce qu'il demandait, c'est contradictoire de la position de coach. Mais il n'est plus coach. Donc c'est-à-dire qu'il faut aussi prendre ça en compte. Il faut prendre la position au lieu de se dire que ses valeurs sont faussées par rapport à ce qu'il demandait à l'époque. C'était l'époque, il était coach. Il avait son intérêt premier qui était Arsenal. Maintenant, son intérêt a changé.
Et absolument. Et Arsène Wenger, effectivement, auprès de la FIFA. Mais nous, on ne veut pas y penser comme ça. On veut surtout penser comme légende d'Arsenal qu'il a été et qui restera dans nos esprits pour de très, très nombreuses années encore.
Par contre,
oui, allez-y, John.
Excuse-moi, juste pour Flora, parce que par rapport à Mika Arteta,
oui.
Je tiens juste à dire qu'il est très, très proche de ses joueurs.
D'accord, ok. Non, mais tu vois, c'est intéressant parce que c'est vrai que ce n'est pas la première image qui renvoie, en fait.
Ouais, totalement. Mais il est très, très proche. Tu sais,
ouais.
J'étais là-bas, j'ai mangé avec eux la dernière fois.
Ouais.
Il est venu à table, il discutait de la tactique, par exemple, qu'ils avaient joué contre Southampton. Tu vois, à table, en rigolant avec Granit, avec Cédric.
Ouais.
Vraiment un truc bon enfant où tu vois que le gars, il peut avoir une discussion et même rigoler. Hein, tu vois, donc c'était vraiment... après, je ne sais pas si c'est parce que j'étais là ou pas, mais
de ce que... C'est intéressant que tu le dises, parce qu'il y a effectivement l'image que nous, on a en tant que journaliste, en tant qu'observateur.
Et quand on le voit sur le banc, c'est vrai qu'il
voilà,
a cet asthme introverti un peu.
Nous, on écoute souvent les interviews d'avant, d'après match, il est toujours un peu renfermé. Mais après, il y a évidemment l'image qu'il est en tant qu'entraîneur devant les médias, etc. Puis à l'intérieur, qu'on, nous, on ne connaît pas. Et c'est pour ça que c'est super intéressant d'avoir la vie de joueur et toi qui les as côtoyés en plus, quoi.
C'est pour ça, on parle d'Arsène Wenger, on parlait d'héritage et on finit sur Mikel Arteta. Donc peut-être bel et bien que l'Espagnol représente cet héritage. La fin de PL Zone, le podcast, épisode 19, partie 2, consacré à Arsène Wenger et cette deuxième partie de carrière à la tête des Gunners entre 2006 et 2018. Grand merci notamment à Johan Djourou pour votre présence. Merci Johan.
Merci à vous.
D'ailleurs, on conseille également le podcast présenté par Johan. Face au miroir, où vous échangez avec des personnes pas du tout dans le sport, mais qui ont des histoires incroyables, parfois belles, parfois tristes, mais qui marquent les esprits. Face au miroir, à retrouver sur toutes les plateformes d'écoute. Merci également à vous, Thomas Descamps, de Arsenal French Club, à retrouver sur Twitter. Merci Thomas, merci Flora,
merci
Samantha Svek et Julie Dereau derrière la vitre. N'hésitez pas avec vos retours via le hashtag PLZone sur Twitter. N'hésitez pas également à vous abonner sur les différentes plateformes pour être alerté à chaque nouveau podcast. La semaine prochaine, dernier podcast de la saison consacré au bilan de la saison. Qui sera champion? Qui ira en Europe? Qui sera relégué? Bref, on évoquera tout, car ce podcast est le vôtre avant tout. Et n'oubliez jamais, comme Manuel Runs Shout.